nous nous retrouvons notre invité, l'avocat Éric Dupond-Moretti, qui publie le dictionnaire de ma vie. On va continuer à lire les clauses en bas de page. Éric Dupond-Moretti, il y a donc une réforme de la justice. Emmanuel Macron l'a évoqué hier. Pour le président, l'emprisonnement doit cesser d'être central. Ça, c'est le thème, j'allais dire, central de cette réforme. Et puis, il y a une petite clause en bas de page qui dit que 15 000 places de prison vont être créées. Qu'en pensez-vous?
Je pense que la nature, et la nature judiciaire en particulier, ont horreur du vide. Donc ces 15 000 places, si elles existent, seront très très vite remplies. Est-ce que c'est pas un signal pour incarcérer davantage? Point d'interrogation. Je rappelle quand même qu'il y a 500 non-lieux prononcés par an dans notre pays. Et parmi ces 500 non-lieux, il y a beaucoup d'incarcérations qui deviennent, de par le non-lieu, abusives. Et qui donne lieu pour certaines d'entre elles à indemnisation. Il faut aussi travailler ça. Ce qui gangrène notre système, c'est le recours trop systématique à l'incarcération provisoire, alors que la loi rappelle que la liberté est la règle. Il y a de très mauvaises habitudes judiciaires. Il faut aussi que l'on regarde cela si on veut régler la question carcérale.
Il y a une autre réforme qui est passée plus inaperçue. Il va y avoir désormais obligation de motiver les peines. Expliquez-nous dans quel contexte, Éric Dupond-Moretti, puis vous nous direz dans quelle mesure cette décision est une bonne ou une mauvaise décision selon vous.
C'est une décision que j'appelais de mes voeux, puisque j'ai plaidé devant le Conseil constitutionnel. C'est une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui avait été posée par mon confrère et ami Philippe de Appio, et il m'a demandé d'aller la plaider. Quelle était la question? On sait depuis une décision de Strasbourg qu'il faut motiver la culpabilité ou l'acquittement. Dire dans un arrêt de cour d'assises pourquoi un homme a été condamné, pourquoi il a été acquitté. En revanche, il n'y avait rien sur la peine. C'est-à-dire qu'on disait, monsieur, vous êtes condamné parce qu'il y a tel et tel élément, mais on vous colle 20 ans sans que vous sachiez pourquoi. Et à plusieurs reprises, la cour de cassation avait validé cette solution, qui était une solution insupportable au fond, parce qu'un homme doit savoir pour quelle raison il écope de telle peine. Et j'ai eu l'honneur de plaider devant le Conseil constitutionnel. Je leur ai rappelé une affaire dans laquelle un homme avait été acquitté d'abord, puis, dans le cadre d'un deuxième procès, condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Alors, on a su pourquoi il était condamné, mais on n'a pas su pourquoi à 30 ans. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Strasbourg, dans cette affaire, a condamné la France. Il a donc été jugé une troisième fois, et il a été condamné à 12 ans. Et quand je suis sorti, quelques micros se sont tendus, j'ai dit 0, 30, 12, 4, 22, 7, numéro complémentaire, le 1. Voilà, c'est l'aléa judiciaire. Je pense que ça aura pour effet principal d'abord d'informer le principal intéressé. Pour accepter une peine, il faut être enfermé dans son verdict, savoir à quoi correspond cette peine. Et puis deuxièmement, ça permet peut-être, ça c'est une espérance, peut-être est-elle vaine, j'espère que non, ça permet d'homogénéiser un peu plus les peines, parce que vous savez que selon que vous êtes jugé, pardon, ici ou là, les peines sont totalement différentes. Il y a des cours d'assises où vaut mieux ne pas être jugé.
Lesquelles?
Vous me posez une question difficile. J'ai assez d'emmerdements comme ça. Mais j'ai des cours d'assises par cours d'assises, je l'ai déjà exprimé. Oui, il y a des cours d'assises dans lesquelles faut pas aller. Parce que la justice, voyez-vous, c'est d'abord la signature de ceux qui la rendent. Et il y a des gens extraordinairement répressifs. Il y a des cours d'assises devant lesquels les détenus le savent. Par exemple, ils disent, mais là, on va être jugé devant telle cour d'assises. Oh non, pas devant telle cour d'assises. Il y a tel président, etc. Tout ça, ça se sait. On n'est pas jugé de la même façon ici que là.
Je ne veux pas vous embarrasser plus encore, mais vous êtes l'avocat de Jérôme Cahuzac. Et dans le réquisitoire qui a été fait, Maître Dupond-Moretti, il est question du devoir d'exemplarité des hommes politiques et en quelque sorte de cette faute qui serait alourdi par la nature, par l'emploi, la personnalité de cet homme qui était ministre, alors que donc l'on a découvert qu'il possédait un compte non déclaré à l'étranger. Et là aussi, on se demande qu'est-ce que vous pouvez faire pour défendre cet homme, pour défendre cet homme, pour qu'il n'aille pas en prison, puisque c'est ce que vous avez demandé lors de son procès.
D'abord, voyez, puisqu'on parlait de motivation des peines, j'ai fait un travail important dans cette affaire. je suis allé collectionner toutes les décisions qui avaient été rendues et je n'ai pas trouvé une seule peine d'emprisonnement pour des montants fraudés équivalents. L'impôt qui n'est pas qui n'a pas été réglé, qui n'est pas qui est dû, c'est de l'ordre de 400 000 euros en termes de pénalité, sachant que une grande partie de cette fraude est imputable à l'épouse de Jérôme Cahuzac, ce qui est admis aujourd'hui. Donc il n'a pas été traité comme un autre. L'avocat général a évoqué la rupture du lien social. Je lui ai fait remarquer que quand une contribuable immensément riche, Madame Bettencourt en l'occurrence, avait possédé de façon illégale un compte en Suisse, abondé de 100 millions d'euros, elle n'avait pas été poursuivie par le même parquet. Donc il n'y a pas deux ruptures du lien social. J'ai évoqué ensuite l'idée, qu'on avait besoin dans notre époque singulière de héros et de boucs émissaires. Johnny Hallyday, qui est un artiste que j'adorais en tant qu'artiste, a passé sa vie à vouloir obtenir des nationalités étrangères pour des raisons fiscales. Et le président de la République a prononcé une très belle allocution pour lui rendre hommage au moment de ses funérailles. Ben, vous voyez, c'est curieux.
Mais alors...
Le héros, d'un côté, est celui sur qui il faut frapper. Et ensuite, il y a la question du mensonge. Et moi, je dis que Jérôme Cahuzac ne pouvait pas faire autre chose que d'aller jusqu'au bout de ce mensonge.
Mais alors, si on prend les théoriciens français du droit, Raymond Carré de Malberg, tous ces gens qui ont forgé le droit en France, Éric Dupond-Moretti, il y a un lien entre la peine et la manière dont elle choque la conscience commune. Alors, je ne veux pas défendre Johnny Hallyday, de toute façon, où il est, il n'a plus besoin d'être défendu, mais Jérôme Cahuzac, par exemple, sa faute choque pour le montant, évidemment, pour les impôts qu'il aurait dû régler, mais aussi du fait de ce double discours, de ce caractère extraordinairement duplice du personnage.
Monsieur, vous avez raison. Je comprends que cela puisse choquer. C'est d'ailleurs l'entame de ma plaidoirie. J'ai dit qu'en tant que citoyen, j'avais été choqué. Que je me mettais à la place du boucher-charcutier qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal et qui voyait le ministre pérorer d'une certaine façon, réclamant des sanctions contre les fraudeurs, alors qu'il l'était lui-même. Mais, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Si l'on évoque cette rupture du lien social, il faut aussi évoquer la sanction qui est la sienne. La sanction qui est la sienne, c'est que il n'a plus personne autour de lui, que son monde s'est totalement effondré, qu'il est injurié, qu'il a reçu des menaces physiques, qu'il ne peut plus aller au cinéma, qu'il ne peut plus aller à l'opéra, que le prix qu'il a payé socialement est extraordinairement lourd. Il a raconté une anecdote. Il est infiniment pudique, Jérôme Cahuzac. Il est sur son vélo, il chute, et là arrive un paparazzi, on devrait dire paparazzo, qui le prend en photo et qui lui annonce le titre, qui sera le titre d'illustration de la photo, c'est la chute. Voilà où on est. Et ça, c'est très très lourd à payer. Il a essayé de redevenir médecin. Je voudrais simplement vous dire qu'un anesthésiste a refusé de travailler avec lui.
Tout ça, c'est de l'extrajudiciaire.
Ah non.
C'est-à-dire qu'on peut compatir, au malheur d'un homme, mais ce n'est pas la justice qui a décidé, par exemple, que cet homme n'aurait plus d'amis.
Non mais j'entends bien, monsieur, mais ça fait partie de la sanction. Vous me parlez de rupture de rupture sociale. Ce qui est un des éléments, d'ailleurs, de constitution de la peine au sens du code pénal, de façon littérale. Mais pour autant, le contexte est à prendre en considération. Oui, il est ministre, mais il en a payé le prix socialement. Et j'ai lu d'ailleurs une décision, pour comparer un peu les choses, celle qui concerne un procureur de la République, qui durant 4 ans n'a pas payé d'impôts alors que son compte était provisionné. La sanction que lui inflige le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une mutation. C'est comme si Cahuzac avait été nommé préfet des Alpes-Maritimes. Alors, je dis que dans une réalité humaine, il faut tout prendre en considération. C'est ce que l'on appelle, monsieur, la personnalisation de la peine. Et ne me dites pas que c'est extrajudiciaire, on est en plein dans le judiciaire, parce qu'il faut prendre en considération tous les éléments qui sont les éléments contextuels.
J'ai lu dans Le Monde que vous aviez refusé de défendre Tariq Ramadan.
Je ne sais pas pourquoi le Monde a écrit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit au Monde que j'avais eu des contacts avec Tariq Ramadan et que j'avais refusé de le défendre.
Bon, de toute façon, si tel était le cas, vous n'auriez pas le droit de me le dire. Ça serait le secret judiciaire.
Évidemment.
Dans ces conditions, que pensez-vous de la procédure qui est aujourd'hui menée? Par exemple, le fait que Tariq Ramadan soit en prison, c'est normal, anormal?
Je n'en pense rien, je ne connais pas le dossier, monsieur.
Vous ne connaissez pas le dossier?
Non, mais je n'ai pas l'habitude. Alors, franchement...
Sur François Fillon, par exemple, vous ne connaissiez pas le dossier.
Je sais bien que c'est la mode aujourd'hui de réunir un magistrat à la retraite qui s'emmerde à 100 sous de l'heure, un ancien flic, trois avocats, des psychiatres qui n'ont pas examiné...
Non, mais sur François Fillon, on en a parlé tout à l'heure.
Laissez-moi terminer. Mais c'est autre chose. Je veux dire pourquoi c'est autre chose. Je n'ai pas parlé du fond de l'affaire. J'ai évoqué, par exemple, s'agissant de François Fillon, le fait que des journalistes aient les procès-verbaux. Je me suis interrogé sur la célérité, sur le fond d'affaire. Vous ne m'avez pas entendu. Je n'ai pas défendu Pénélope Fillon. J'en étais totalement incapable et ce n'était pas mon mandat. En tant que citoyen, j'ai réagi. En revanche, sur un dossier comme celui de Tariq Ramadan, je ne sais pas s'il existe des indices, s'ils sont graves, s'ils sont concordants. Voilà, je sais que c'est la grande mode aujourd'hui de faire les procès sur les plateaux, avec tous ces personnages qui ne connaissent pas le dossier, et même des psychiatres qui parlent de la psychologie d'un type qu'ils n'ont pas examiné. Je préfère me taire parce que je ne connais pas le dossier.
Il y a, en tout cas autour des affaires de mœurs, à la fois une actualité importante, beaucoup de réformes en cours, le fait de fixer une majorité sexuelle, un consentement sexuel à 15 ans, qu'en pensez-vous en tant qu'avocat Éric Dupond-Moretti?
Ça existe déjà d'une certaine façon. Hein. Bon, il y a la majorité 18 ans, etc. Et il y a une majorité sexuelle. Il y a un âge en deçà duquel le consentement n'est pas retenu. Un âge au-delà duquel il est possible qu'il y ait un consentement. C'est aujourd'hui 15 ans.
Le fait de ne pas laisser à l'appréciation du juge de la cour, parce qu'on peut avoir au-delà de 15 ans et finalement ne pas être à même de donner son consentement. Est-ce que ça, par exemple, ça n'est pas choquant et de toute façon, cela retire du pouvoir à la justice?
Non, ce que vous venez de dire mérite une petite correction. Au-delà de 15 ans, ça n'est pas parce que l'on est au-delà de 15 ans que il ne faut pas examiner la question du consentement. Vous avez bien compris que naturellement.
Voilà. Le fait de dire que c'est à partir de 15 ans.
En deçà de 15 ans, on n'a pas. La loi va poser la question du consentement. Le consentement ne peut pas être présumé en deçà de cet âge. Et au fond, ça n'est pas anormal. Il faut quand même fixer quelques limites. Il y avait eu cette décision qui avait beaucoup choqué d'un acquittement. Il s'agissait d'une enfant, moi je dis d'une enfant de 11 ans, mais je crois comprendre, parce que je n'ai pas compris cette décision, mais je crois comprendre que c'est pour des questions techniques. Je pense que la cour d'assises n'était peut-être pas en mesure de répondre aux questions de culpabilité, mais pour la façon dont les questions étaient posées. Je pense que c'est une histoire de procédure. Moi je l'ai compris comme ça, mais je peux pas en dire davantage, parce que là encore je connais pas le dossier.
Il y a dans le livre que vous allez publier dans quelques jours, Éric Dupond-Moretti, Le Dictionnaire de ma vie, une entrée à T. Il y a le fameux hashtag ton porc. Oui. Balance ton porc, vous l'avez mis à T. Oui. Parce que la lettre B était déjà prise. Qu'en pensez-vous de ce hashtag?
De façon générale, d'abord, je pense qu'on est dans une époque qui cristallise davantage les différences que ce qui nous unit. Alors, d'abord, il y a les communautarisme, avec tous les risques que cela comporte, et je pense qu'on crée des groupes qui s'opposent. Et maintenant, on est en train d'opposer les hommes et les femmes. Et je trouve que c'est quand même assez inquiétant. Hashtag ton porc, je trouve qu'il est très bien que des femmes puissent se libérer et dire ce qu'elles ont vécu. Mais pas sur les réseaux sociaux. Devant la justice. C'est là que se font les choses. Moi, j'étais scandalisé par ce que j'ai lu à propos de Nicolas Hulot. Mais comment on ose publier des saloperies pareilles? Comment récemment...
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a choqué?
Il n'y a rien. Écoutez, pardonnez-moi, mais c'est même pas une question de présomption d'innocence. Il n'y a sur le plan judiciaire strictement rien. Comment on ose? Comment on ose livrer l'honneur de cet homme en pâture?
Il y a une femme qui avait porté plainte. La plainte a été jugée, vous allez me corriger si je me trompe, mais la plainte de toute façon n'avait pas pu être reçue puisque les faits étaient prescrits.
Et donc?
Je suis en train d'être uniquement descriptif sur ce que j'ai lu.
Mais qu'est-ce que l'on fait de ça, alors ?
Je vous pose la question. Non, mais il y a un certain nombre de faits. C'est ce que Patrick de Saint-Exupéry avait dit d'ailleurs pour défendre la publication de cet article. Il avait dit, voilà, ce sont des faits qui se sont produits. Personne ne les nie. Je parle des faits judiciaires.
Mais on n'en sait strictement rien. Enfin, pardonnez-moi.
Il y a une lettre du parquet. Lettre du parquet qui expliquait que effectivement il y avait un dépôt de plainte, que ce dépôt de plainte n'avait pas pu être traité puisque les faits étaient prescrits.
Mais d'accord, est-ce que ça signifie pour autant que
j'ai d'ailleurs été surpris que le parquet produise cette lettre.
Non, mais est-ce que ça signifie pour autant que les faits sont avérés ? De quoi parle-t-on ? Excusez-moi, si Monsieur X est condamné, alors effectivement on peut parler, oui, et commenter abondamment. Mais pour le reste. On est allé chercher je ne sais quoi, on l'a exhumé de façon absolument incroyable, on a jeté l'opprobre sur cet homme. Moi j'ai senti son émotion, tout le monde a dit « oui mais quand même, c'est très compliqué, il y a peut-être des plaintes, mais il suffit pas de se plaindre pour avoir raison. Sur le plan judiciaire, il n'y a rien. Mais jusqu'où peut-on aller dans la volonté ? Parce que là il s'agit d'une volonté de bafouer la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, elle nous protège tous.
Mais j'allais vous proposer, par exemple, de la supprimer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au stade où en sont les choses, Tariq Ramadan, vous n'allez probablement pas vous exprimer sur ce procès, puisque vous m'avez dit que vous ne commenteriez pas un dossier que vous ne connaissez pas, mais on a un certain nombre d'éléments qui relèvent du dossier.
Monsieur, c'est pas parce que des gens violent la présomption d'innocence qu'il faut la supprimer, il faut au contraire la renforcer.
Comment faire ?
Je vous donne des exemples. Moi, je pense qu'il faut légiférer... ces procès qui sont ouverts sur des plateaux de télévision alors que le procès judiciaire n'est pas ouvert. Où vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, le magistrat
quoi,
à
les faits divers récents, par exemple.
Non, mais que l'on informe de l'existence d'un crime. Ça, c'est le métier de journaliste, il n'y a rien à en dire. De l'interpellation de M. Duchemol, placé en garde à vue, il n'y a rien à dire non plus. Mais que l'on fasse des heures et des heures de commentaires, de vrais procès. Je veux dire, et je le redis avec un magistrat à la retraite qui doit s'ennuyer à mourir, un flic qui parle d'une enquête, il ne la connaît pas, il ne l'a pas vue, ou alors c'est à désespérer de tout. Trois avocats qui viennent, deux avocats qui sont traditionnellement en défense, puis deux qui sont partie civile, et tout ça, ça glose d'un dossier que personne ne connaît, et ça livre une espèce de verdict à l'opinion publique qui, taper un... il est coupable, tapez 2, il est innocent, tapez 3, vous gagnez un séjour à Cayenne. Mais franchement, c'est scandaleux. Il faut qu'on arrête ça.
Est-ce que ça nuit à la justice, à la représentation de la justice ? Est-ce que ça vous empêche de faire votre boulot ? Est-ce que ça empêche les magistrats de travailler ?
Mais surtout, monsieur, on livre l'honneur d'un homme ou d'une femme au chien, selon l'expression de François Mitterrand.
Était peut-être employé d'ailleurs là à mauvais escient.
Oui, mais c'était tellement beau. Non mais c'est important ces notions-là, on peut pas jouer avec ça indéfiniment, parce qu'un jour, c'est déjà arrivé, vous savez, un type va se faire interpeller, il va se faire agonir d'injures parce qu'on va le présenter comme un coupable, il va se flinguer, ça arrive, moi j'ai vécu ça avec un instituteur à Valenciennes qui avait été interpellé, qui avait été accusé à tort, et puis il s'est donné la mort au sortir de la garde à vue, il supportait pas le poids de l'opprobre qui pesait sur ses épaules et sur sa famille, et puis le gamin est arrivé pour dire ensuite qu'il avait totalement menti. C'est arrivé dans l'affaire d'Outreau, c'est arrivé dans d'autres affaires, et malheureusement ça arrivera encore, ça s'appelle de fausses accusations. On ne peut pas jouer avec ça, on ne peut pas jouer avec le feu. Il y a une espèce de dérive actuelle qui fait que on oublie que le monde judiciaire et le monde médiatique sont différents, que le temps judiciaire, que le temps médiatique ne sont pas les mêmes. Il faut laisser faire les choses avant de s'emballer. C'est tout ce que je dis.
Mais vous savez également très bien vous servir du temps médiatique, Éric Dupond-Moretti.
Ben, je sais m'en servir, vous savez, moi, il y a un certain nombre d'affaires, les affaires récentes, enfin, Mera en particulier, Cahuzac en est une autre illustration, Tron en est une troisième, où je n'ai pas dit un mot dans le cours de l'instruction. Parce que d'abord, je savais que ma parole n'était pas audible.
Ben, sur Cahuzac, vous vous êtes exprimé,
non.
Sur...
Je ne me suis jamais exprimé sur le dossier Cahuzac, avant qu'il ait été jugé, et je m'exprime, vous l'avez vu, à mot compté. Parce que cette affaire est entre les mains de la Cour, et que par respect pour la juridiction, j'ai pas envie de refaire ici une plaidoirie. ma plaidoirie, elle était destinée à la cour. Mais je ne me suis pas exprimé du tout pendant l'instruction, qui a duré 5 ans. Pourtant, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais voilà le processus.
Quoi, par exemple ?
Bah, qu'il n'y avait pas d'éléments à charge suffisants pour le condamner pour la complicité d'assassinat. Mais quand vous dites ça, on vous tend le micro, vous dites ça, et 2 secondes après, vous avez ce qu'a dénoncé le président de la République, au fond. Vous avez les avocats des partis civils qui redisent le chagrin, l'affliction totale, absolue des victimes, et vos propos sont balayés. Donc on n'est plus à armes égales, là. On est sur un terrain qui est purement victimaire, lacrymal, et qui emporte tout sur son passage, comme un tsunami, ce qu'on appelle la dictature de l'émotion. Donc moi, je me suis interdit, et c'est ma règle.
L'émotion peut être plus ou moins compréhensible, là, elle
l'était parfaitement. Non, mais elle l'est totalement. Non, mais c'est pas plus ou moins, elle est totalement compréhensible. Sauf que, il ne peut pas ni avoir que cela.
Non, mais dictature de l'émotion, si vous voulez, c'est un peu un oxymore, parce qu'on pourrait parler de dictature de l'humanité. Or, vous voyez bien que dans le cas de ce procès, il y a naturellement des choses qui sont tellement... Enfin,
pardon, c'est plus
que choquant.
Si c'était la dictature de l'humanité, les prisons seraient moins pleines.
Non, je parlais dans le cas du procès Mera.
Non, monsieur, non, franchement, c'est pas oxymorique du tout. Moi, j'ai le sentiment, c'est pas un sentiment, d'ailleurs, c'est une certitude viscérale, que dans ces affaires-là, d'une certaine façon, la défense est interdite. Parce que l'émotion est tellement forte, et parce que nous sommes aussi radicalisés. J'ai tenté d'exprimer cette idée.
On s'est radicalisé. Vous savez, il y a aujourd'hui le cas de Sarah Halimi qui a été tuée il y a 1 an. Le crime a été aujourd'hui requalifié en crime antisémite. Il a fallu 1 an pour qu'une vieille femme défenestrée soit considérée comme une victime de l'antisémitisme alors qu'elle a été jetée hors de la fenêtre au cri d'Allah Akbar. Alors la dictature de l'émotion, elle fonctionne. Parfois, elle ne fonctionne pas.
Non, monsieur, d'abord, je ne connais pas ce dossier dans le détail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque...
On en a parlé
en antenne de m'en parler. Ce n'est pas parce qu'il y a un dysfonctionnement que pour autant nos esprits ne se sont pas radicalisés. Pardonnez-moi, mais monsieur, 80% des Français sont favorables à ce qu'on les place sous écoute téléphonique au motif qu'ils n'ont rien fait. Ben moi, c'est parce que je n'ai rien fait que je ne veux pas qu'on m'écoute. Et on a concédé un certain nombre de choses sur le terrain des libertés. Vous avez au Café du Commerce des gens qui réévoquent aujourd'hui le rétablissement de la peine de mort. Hélas, pas qu'au Café du Commerce, d'ailleurs, dans certains partis politiques, je pense au Front National en particulier. Donc, on évoque aussi l'idée que tous ces terroristes-là, ou supposaient-elles, méritent pas un procès équitable. Enfin, tout ça, ça court dans les rues. Parce que, et les terroristes d'une certaine façon...
Par exemple, les juger en Irak ?
Mais on va y venir, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est que les terroristes ont pour vocation de ne plus nous laisser vivre ce que nous vivons. C'est avec nos règles, notre démocratie perfectible, l'égalité homme-femme, tout ce que vous voulez, d'accord ? Donc ces gens-là veulent bouger ces règles-là. Et si nous bougeons les règles judiciaires qui honorent notre justice, alors d'une certaine façon, les terroristes ont gagné. C'est ça, moi, que j'ai dit aussi pendant le procès Mera. Et prenez effectivement les djihadistes français en Irak. La France... C'est son honneur. N'extrate pas un étranger, un ressortissant étranger, vers un pays demandeur quand il risque la peine de mort. Et vous voudriez qu'on laisse des Français, parce qu'ils sont Français, quoi que l'on en dise, se laisser couper en deux dans un autre pays. Mais si vous faites un sondage là-dessus, monsieur, vous verrez que la radicalisation dont je parle n'est pas qu'une hypothèse.
L'argument invoqué dans ce cas, maître, consiste à dire « ces gens-là font la guerre, dans la guerre, on risque la mort ».
Je vous répète que la France, et c'est son honneur, n'extrate pas les étrangers qui risquent la peine de mort. Donc on va jeter, j'ai presque dire un voile, sans mauvais jeu de mots, pudique, pour ne pas voir que l'on condamne à mort des ressortissants français qui sont à l'étranger.
Qu'est-ce qui vous fait encore exercer votre métier ? Vous publiez donc le dictionnaire de votre vie. Et vous avez défendu, j'allais dire, certaines causes indéfendables, mais j'allais vous tendre une perche trop facile. Peut-être refuser d'en défendre d'autres. À quoi aspirez-vous encore, Éric Dupond-Moretti ?
D'abord, j'ai la chance d'exercer un métier où je trouve que l'on bonifie avec le temps. C'est suffisamment rare pour pas que j'en profite. Et puis j'en ai pas fait le tour, et puis ce métier me passionne encore, et le jour où j'aurai plus la flamme, alors voilà, j'arrêterai. Je crois qu'il y a des raisons éthiques à cela. Et puis, il y a aussi des raisons tout à fait personnelles. Je pense que je me soigne un peu. J'ai déjà exprimé ça. Une espèce de psychothérapie. Vous savez, mais quand on fait un métier d'expression publique, on est un peu dans cela. Vous aussi, sans doute.
Oui,
on
n'est
pas ici par hasard.
Moi, je n'ai pas à défendre des gens dont on considère, dont la société tout entière considère que ce sont des ennemis parce que ils ont dissimulé au fisc alors qu'ils étaient ministres du budget, parce que ils ont fourni le prêt-à-penser à un frère qui était sur le point de commettre des assassinats terribles.
Ben d'abord, je ne défends pas que des présumés terroristes.
Non, je parle de ces deux procès les plus connus.
Ou des fraudeurs. Mais, vous savez, moi ce qui me fait frémir, c'est le manichéisme actuel. On vit dans une époque hyper moralisatrice. Et on a reproché à Cahuzac son mensonge. Bon.
Or, qui était de taille, malgré tout.
Il est de taille, mais regardez bien. D'abord, je pense que nous mentons tous et que cela nous protège. Et que parfois, ça protège des gens qui sont nos proches. En réalité, cet homme, à ce moment-là de sa vie, il n'a plus que cela. Et c'est le ministre qui regarde le chirurgien fraudeur. Et ce sont plus les mêmes. Et j'ai eu cette idée, je pense qu'elle était assez juste, de demander à un psychiatre de venir nous expliquer ça. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Zaguri, qui est un expert psychiatre connu des tribunaux, de nous expliquer cette histoire du mensonge et la pesanteur du mensonge. Il est enfermé dans son mensonge, Cahuzac. Il a d'ailleurs évoqué, vous voyez monsieur, vous me parliez tout à l'heure de personnalisation de la peine, une velléité suicidaire qui est une vraie volonté à ce moment-là. Donc tout cela n'est pas simple. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ce métier est un métier magnifique.
Éric Dupond-Moretti, Le Dictionnaire de ma vie, c'est le livre que vous publiez chez Kairos.